Aujourd'hui, justement, comme vous le savez, nous sommes dans notre temps de FAQ. Alors, il était question que nous écrivions au secrétariat, donc à Blise Marie, il était question que nous écrivions à Blise Marie, afin justement de poser toutes nos questions. Toutes nos questions qui étaient justement sur le thème comment expérimenter, sinon comment marcher, sinon comment vivre le surnaturel. Donc c'était ça le thème principal, et il était question pour nous de poser des questions. Voilà, de poser des questions. Alors ce qu'on va faire, frère André, c'est que je vais te poser les questions et tu vas répondre et tu vas avoir un temps pour répondre.
D'accord.
Alors, donc, on va commencer de suite par la première question. La première question qui nous a été posée par Daniel. Alors, la première question est la suivante. Y a-t-il une différence entre marcher dans le miraculeux et marcher dans le surnaturel?
D'accord. Avant ça, j'aimerais déjà bénir le Seigneur pour les temps que nous prenons. Bien-aimé, sachons-le, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant et... Le catéchisme de l'Église catholique dit qu'au numéro 53, que le Seigneur se révèle à la fois par des actions et des paroles. Nous avons reçu la parole de la vie. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité. Et il y a des actions concrètes de Dieu dans nos vies. Beaucoup d'entre vous ici ont reçu des guérisons, ont reçu un certain nombre de choses, ont vécu des expériences. Beaucoup d'entre vous voient leur cœur transformé. Beaucoup d'entre vous font l'expérience déjà de l'amour de Dieu. Dieu est vivant, il est réel. Et ce Dieu qui est vivant, qui est réel, toutes les fois que nous l'invoquons, toutes les fois que nous parlons de lui, et surtout toutes les fois que l'atmosphère de sa grâce est quelque part, parce que la parole est proclamée, alors l'homme est heureux et l'homme est en contact avec son Créateur. Et c'est vraiment le but premier de l'homme, être avec son Créateur. Amen. Amen.
Amen. Amen.
Okay. Super. J'aimerais en fait demander à une ou deux personnes de garder leur micro ouvert pour que justement on puisse bien savoir, on puisse bien s'entendre et que je me rassure à chaque fois qu'on s'entend bien. Je te prie, ô Dieu, d'étendre ta main sur chacun d'entre nous. Je te prie, ô Dieu, que les paroles qui sortiront de ma bouche, je te prie, ô Dieu, que ces paroles ne soient pas les miennes mais les tiennes. Seigneur, inspire même les questions de sorte que ton nom soit glorifié et que nous soyons édifiés, que ta parole puisse transformer quelque chose dans nos cœurs. Seigneur, étends ta main afin que les raisonnements qui ne confessent pas le nom de Jésus soient détruits, afin que nous avancions dans la vie et que le Saint-Esprit prenne plus de place dans nos vies. Amen.
Amen.
Alors,
amen.
La première question, tu as dit, c'était, est-ce qu'il y a une différence entre marcher dans le miraculeux et dans le surnaturel? Alors, y a-t-il une différence entre marcher dans le miraculeux et marcher dans le surnaturel? Oui et non, je m'explique. Lorsque nous parlons de miracles, justement dans les Écritures, il s'agit de faits généralement qui sont visibles. Visibles, une guérison, trouver du travail, trouver de l'argent dans un poisson, comme l'apôtre Pierre, avec, voilà, vivre le déplacement instantané, comme le diacre Philippe, être mis dans le feu et ne pas brûler, comme Abednego et ses frères dans le livre de Daniel. C'est visible, c'est miraculeux, c'est du pur miracle, mais en même temps aussi, c'est du surnaturel, parce que c'est Dieu qui le fait. Lorsque le Seigneur intervient particulièrement dans la vie d'une personne, en faisant quelque chose qui n'est pas habituel, et surtout qui est impossible naturellement, alors c'est un miracle et c'est du surnaturel. C'est rendu possible à cause de la mort de Jésus, à cause de l'alliance éternelle que nous avons avec le Christ, et ça a été rendu possible dans la vie des Israélites à l'époque à cause de l'alliance qu'ils avaient avec Moïse, l'alliance qu'ils avaient avec Dieu au travers, justement, l'alliance mosaïque qui a été établie entre le Seigneur et son peuple. Voilà. Et même déjà avec Abraham, il y avait déjà les prémices de ces alliances-là. Voilà. Maintenant, il faut comprendre une chose, marcher dans le miraculeux, marcher dans le surnaturel et dans le miraculeux peuvent être différents au sens où, en fait, le miraculeux, le surnaturel n'est pas forcément visible. voyez, lorsque nous parlons de surnaturel, nous parlons en anglais de supernatural. Supernaturel, c'est-à-dire au-delà de la matière, au-delà de ce que nous voyons. Dieu peut travailler dans le cœur d'une personne. Nous l'avons vu dans la vie de l'apôtre Paul, qui était un persécuteur, rituel et chrétien, un meurtrier, puisqu'il a participé au meurtre d'Étienne. Il va devenir une personne très douce, qui va aimer les gens. Et la Bible va même dire dans une de ses lettres, il dira « Je suis venu vers vous tout tremblant, tout tremblant ». Il va être transformé dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose de visible au sens strict du terme, c'est que son cœur va être rempli justement de quelque chose qui fera en sorte qu'il puisse changer intérieurement. Et ça, vous voyez, à l'extérieur, ça ne se voit pas s'il n'y a pas d'acte. Voyez. En ce sens, si le miraculeux, c'est quelque chose de visible, alors à ce moment-là, le surnaturel justement et le miraculeux vont avoir cette différence-là. Donc, le miraculeux est toujours surnaturel, mais le surnaturel peut des fois ne pas être visible à l'œil nu et donc peut des fois ne pas être le miraculeux. Sauf si nous considérons que le miracle peut aussi être de l'ordre du cœur et de l'intérieur. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que nous avons compris?
Bon, je pense que moi, personnellement, j'ai compris. J'ai compris la différence qu'il y a entre les deux. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde. Alors, s'il s'avère que quelqu'un n'a pas forcément compris l'explication du frère, vous pouvez l'écrire en commentaire. Comme ça, lorsque le frère sera en train d'expliquer, donner des explications, nous pouvons enfin, peut-être, faire un point avec le frère, et il va justement peut-être il va revenir sur certains points qui vous ont été peut-être difficiles, soit dans le groupe, dans le grand groupe, ou bien voilà. Donc, écrivez, n'hésitez pas à écrire en commentaire certains points sur lesquels vous aimeriez que le frère André revienne. Alors, frère André, merci pour ta réponse. Moi, personnellement, j'ai vraiment été béni. Et donc, ça m'emmène à te poser la deuxième question, du coup, toujours de Daniel. Alors, effectivement, nous avons expérimenté, nous avons reçu deux enseignements sur la vie dans le surnaturel, la vie dans le miraculeux. Et justement, quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes progressivement en train de basculer dans le surnaturel?
Alors, juste avant ça, tout à l'heure, moi je suis du côté de Lambaréné. Tout à l'heure, il y a eu une grande pluie, la pluie qui a commencé à vraiment venir avec force. Et je suis avec un de mes enfants spirituels, et j'ai prié en disant, en ordonnant à la pluie de tomber, de ne plus tomber du tout, ou à la limite, si elle veut trop tomber, qu'elle tombe de sorte à ce que ça ne fasse pas le bruit pour que on puisse bien s'entendre. J'invite pour toutes les personnes chez qui il y a la pluie maintenant de faire cette expérience justement du surnaturel, d'ordonner, pas de dire Seigneur, arrête, non. Toi-même, tu dis au nom de Jésus, pluie, tu t'arrêtes maintenant, le temps que la parole de Dieu m'édifie. Vous savez, c'est cette parole de Dieu qui a fait les mondes, cette parole de Dieu-là qui est Dieu lui-même, c'est ce que nous dit Jean chapitre 1. Du coup, vous pouvez le faire avec foi, vous pouvez le faire en étant détendu, vous allez voir, ceux chez qui la pluie est forte, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que même si la pluie doit tomber fort dans toute la ville, dans ton quartier à toi, ça ne va pas tomber fort, ou même ça ne va même pas du tout tomber. Parce que la parole de Dieu et le surnaturel, c'est aussi ça. Amen. Voilà. Et du coup, après avoir dit ça, après avoir menacé la pluie, la pluie s'est arrêtée. Et là, elle tombe, mais vraiment un tout petit peu. Je vous entends très bien, et je crois que vous m'entendez très bien aussi. Amen.
Amen.
Vous m'entendez très bien, n'est-ce pas?
Oui, très bien.
OK. Alors, quels sont les signes qui montrent que nous sommes en train de basculer dans le surnaturel? Alors, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit dans Marc au chapitre 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Nous avons vu ensemble que basculer dans le surnaturel, c'est recevoir le don de la foi. C'est ce don de la foi qui nous donne de vivre véritablement la vie divine qui est la vie surnaturelle. Et bien aimé, en réalité, lorsque nous recevons le don de la foi, les signes qui accompagnent C'est-à-dire que ces signes poursuivent le don de la foi, poursuivent la foi que Dieu met en nous, que nous accueillons dans le Seigneur par sa parole. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous allez guérir les malades, vous allez parler. En fait, il s'agit des signes que je pourrais appeler signes charismatiques ou prophétiques. Ces signes charismatiques-là, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être des signes messianiques. Lorsque nous parlons des signes messianiques dans les Écritures, c'est ce que Jésus va dire lorsque un des disciples de Jean le Baptiste va venir vers lui en disant « Seigneur, le Baptiste nous envoie à te demander est-ce que tu es vraiment celui que nous devons attendre ?» Et la Bible dit que Jésus, avant de répondre, il a ouvert les yeux des aveugles, il a guéri les gens. Donc, la guérison, les signes charismatiques, donc le don des langues, la guérison, les charismes, l'exercice des charismes dans notre vie et pour l'édification des autres, mais aussi l'édification de notre propre vie, est le signe que nous basculons dans le surnaturel. Deuxièmement, le deuxième signe que nous basculons dans le surnaturel, c'est quoi? C'est le fait, bien-aimé, qu'il y ait véritablement une transformation de notre cœur, une conversion qui se fait, qui était normalement impossible pour nous-mêmes, mais qui est possible pour Dieu. La Bible dit dans Luc 1, au chapitre 37, que rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur, justement, dans les Écritures, dans le livre de Jérémie, il dit ceci, je peux remplir de vin toutes les jarres. En d'autres termes, je peux véritablement remplir le cœur de tout homme de ma vie divine. Donc, quand on bascule dans le surnaturel, il y a l'exercice des charismes, donc les miracles qui vont suivre et tout ça, machin, mais il y a aussi notre cœur qui va s'attacher à Dieu. Il y a aussi la conversion de notre cœur. Il y a aussi tout ce qui est réalité intérieure qui va être véritablement tourné vers Dieu, transformé pour une meilleure intimité avec Dieu. Il y a une amélioration dans notre propre cœur, une plus grande humilité, un exercice plus grand des vertus qui sont une grâce de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on s'est compris?
Oui, je crois qu'on s'est compris. Alors, j'aimerais te demander, Frère André, est-ce que est-ce qu'on peut dire de façon simple, de façon ramassée, que le premier signe, justement, qui montre que nous rentrons dans le surnaturel, c'est le baptême de l'Esprit-Saint?
Le premier signe qui montre que nous basculons dans le surnaturel, c'est, oui, le baptême du Saint-Esprit. Mais quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. En fait, le baptême du Saint-Esprit, si vous voulez, c'est l'expérience qui nous fait rentrer dans la réalité de l'amour de Dieu pour nous. Beaucoup ici, le baptême du Saint-Esprit ne s'est pas passé comme pour les autres. Ils n'ont pas prié en langue, ils ne sont pas tombés, ils n'ont pas crié. Ils étaient assis chez eux, ils regardaient un film simplement de Jésus, mais ils regardaient la nature, et puis il y a eu la conviction dans leur cœur, en fait, que Dieu est vivant, que Dieu les aime, et leur cœur s'est rempli d'amour pour Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est véritablement cette guérison intérieure où nos yeux s'ouvrent, nous cessons d'être aveugles, Dieu ouvre nos yeux sur la réalité de son amour. Voilà. À partir de là, oui, tu rentres dans le surnaturel. Et après, il y a des signes qui justement... qui authentifie ça.
J'espère qu'on m'écoute toujours.
Oui, on t'écoute toujours.
Ok, parce que la pluie s'est un peu augmentée. Donc, alors, merci beaucoup, Frère André.
Faites l'exercice. Alors, faites l'exercice. Parlez à la pluie. Dites à la pluie de s'arrêter. Faites l'exercice. Vous allez voir, ça marche.
Amen. Alors, la pluie, je te demande maintenant de t'arrêter dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors, je crois que le Seigneur va justement, effectivement, non, il a déjà arrêté la pluie. Donc, alors, nous allons continuer justement notre temps. Et j'aimerais te poser la troisième question de Daniel. Alors, justement, le surnaturel. Lorsqu'on vit le surnaturel, est-ce que c'est quelque chose de permanent? Est-ce que c'est une vie qui est, une fois que nous sommes rentrés dedans, on le vit, on la vit vraiment de façon permanente, ou bien c'est quelque chose, c'est temporaire, c'est juste à certains moments. Merci.
Ok. Est-ce que c'est quelque chose de permanent? Je parle bien sûr de la vie dans le surnaturel. Alors, le surnaturel comporte deux réalités. Et là, je bénis Dieu parce que c'est quelque chose qui va vous vraiment ouvrir vos yeux, nos yeux ensemble. Alors, la Bible dit ceci. Il y a eu deux baptêmes, il y a eu deux venues de l'Esprit, d'une certaine façon. Lorsque Jésus ressuscite, il dit aux apôtres, recevez l'Esprit. Il souffla sur eux, il dit, recevez l'Esprit. Mais dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit que le Saint-Esprit envahit le lieu. Ils furent aussi remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque Jésus souffle sur eux, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les apôtres reçoivent la personne de l'Esprit. Ils deviennent, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit vient habiter dans leur cœur. Il devient ami de l'Esprit. Le Saint-Esprit, la personne de l'Esprit, vient désormais habiter chez eux. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit de Actes des Apôtres au chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas là, c'est que, en réalité, il y a véritablement ce mouvement de l'Esprit qui va désormais, en fait, qui est déjà là, qui va véritablement maintenant, j'ai envie de dire, se mouvoir et prendre la place, toute la place justement dans le cœur des apôtres. Je vais imaginer ça pour que ce soit facile à comprendre. Je vais imaginer. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, si vous me donnez, si vous vivez avec une personne, vous pouvez vivre avec une personne, marcher avec la personne, aimer la personne, être avec la même personne dans la maison. Mais cette personne-là peut ne jamais vous donner son argent. Cette personne-là peut ne jamais vous aider si vous avez besoin d'elle. Voyez? Donc, quand Jésus souffle sur eux, le Saint-Esprit vient dans leur vie. Il est là, il est présent. Ils vivent avec l'Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant se mouvoir dans la vie de ces personnes-là, de sorte à ce que sa puissance devienne, soit au service justement des personnes justement dans lesquelles il vit, des personnes avec qui il vit. Du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est quoi? Il va donc y avoir une distinction juste pour l'étude entre la puissance de Dieu et la présence de Dieu. La puissance de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit se meut pour opérer un miracle, opérer quelque chose de particulier. La présence de Dieu, c'est Dieu qui est véritablement avec nous. Alors, la puissance de Dieu se manifeste, n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente. Je veux dire, ce n'est pas tout le temps que les malades guérissent au travers de toi. C'est pas, non, ça se fait quand Dieu le veut, quand c'est sa volonté, lorsque l'onction de Dieu, la puissance de Dieu se meut. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas tout le temps que je prie pour un fou et puis il guérit. C'est arrivé une seule fois. C'est arrivé une seule fois dans ma vie. Ça n'arrive pas tout le temps. Par contre, la présence de Dieu est permanente. Ma vie avec Dieu, au sens où mon cœur à cœur, ma proximité, le fait que je sois son tabernacle, c'est permanent. Du coup, le surnaturel, au sens de manifestation extérieure, ce n'est pas toujours, ce n'est pas permanent. Ça arrive au moment où Dieu le veut et au moment où on prie, où on le demande. Par contre, le surnaturel au sens de la vie avec Dieu, de la présence de Dieu, du fait de l'amitié avec Dieu, la conversation avec Dieu, le fait d'être tabernacle de Dieu et que Dieu soit tabernacle de nous, frères et sœurs, ça c'est permanent. Est-ce qu'on se comprend?
Amen. Alors, merci frère André. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, la pluie est en train de s'arrêter. Donc, nous avons béni le Seigneur Jésus. Alors, merci pour cette réponse. Moi, personnellement, tu m'as beaucoup béni et effectivement, ça m'a emmené à comprendre, à mieux discerner, à mieux dissocier, justement, à faire la nuance de la question. Alors, maintenant, j'ai envie de poser une question de Marie-Reine. Alors, Marie-Reine, lorsque elle a entendu les deux premières prédications qui ont été faites sur la question du surnaturel, elle s'est posé une question. Et elle se demande, du coup, est-ce que nous sommes des êtres naturels, parce qu'on est fait de chair, et on est fait de faiblesses, est-ce que nous sommes des êtres naturels et en même temps des êtres surnaturels? Donc, est-ce que nous sommes des êtres à la fois naturels et surnaturels? Donc, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus?
Ok. Alors, oui, nous le sommes. Nous le sommes par nature, par nature. Alors, l'homme est corps, âme et esprit. Dans, vous savez, la Bible, les scientifiques parlent de la théorie créationniste. Hein. Pour nous, c'est une vérité de foi. Dieu a créé le monde. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, qui donnent les récits de la création, dit bien que Dieu a créé le monde. Et bien aimé, lorsque Dieu crée le monde, on le voit bien dans Genèse chapitre 1, il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et maintenant, dans Genèse 2, il dit « Il crée l'homme », vous voyez, mais il dit la Bible dit « Dieu forma l'homme à partir de la glaise », donc de la terre. « Il insuffla en l'homme une haleine de vie ». Et bien aimé, il y a cette réalité du fait que Dieu ait tiré l'homme justement du naturel, de la nature, à partir de la terre, et ensuite il insuffle un souffle vivant, une haleine de vie, donc un esprit vivant. Quand on parle de vivant, c'est la vie en fait, en hébreu, c'est la vie. Quand on parle de vie, même en grec, hein, je pense, quand on parle de vie, on parle de l'âme, voyez. Et quand on parle de souffle, donc la roua, en hébreu, on parle de souffle, on parle de l'esprit, donc une âme, un esprit, et un esprit vivant, un esprit animé, donc animé, anima, donc un esprit rempli d'une âme, voyez. Donc l'homme est corps à partir de la nature, mais il est aussi spirituel à cause de l'esprit et de l'âme. Voilà. Et donc, l'homme, eh oui, est naturel parce qu'il a un corps tiré du naturel. Ce corps-là a des réalités naturelles. Un homme, je disais, a besoin de manger, c'est naturel. A des pulsions, c'est naturel. Mais un homme aussi va être surnaturel parce qu'il est spirituel. C'est pourquoi l'homme peut aimer. Les animaux n'aiment pas. Voilà. L'homme peut aimer. L'homme peut observer la beauté. L'homme peut aimer l'art. L'homme peut... L'homme est capable de Dieu. L'homme peut rechercher Dieu. L'homme est conscient de lui-même. Et frères et sœurs, lorsque nous parlons de la conscience, c'est le retour à soi. Vous voyez, le retour à soi, ça veut dire constater justement que constatons que nous sommes conscients de nous-mêmes. Voilà. Donc l'homme est surnaturel, l'homme est naturel. Naturel à cause du corps, surnaturel parce qu'il est semblable à Dieu à cause de l'esprit. Voilà.
Amen. Merci beaucoup, frère André, pour cette question. Je pense que moi, ça m'a aussi édifié. Et la question qui va suivre, parce que Marie-Anne a envoyé deux questions, et dans l'autre question, je crois que tu l'as répondu dans les questions qui avaient été posées par Daniel plus haut. Mais là, il y a une question qui est selon moi, c'est vraiment une masterclass de questions, parce qu'elle engage directement, elle parle justement du Saint-Esprit et de Jésus. Alors, avant de te poser cette question, j'aimerais quand même dire que cette question, moi, personnellement, me fait réfléchir. Alors, la question, c'est la suivante. Quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie de Jésus? Pourquoi cette question me questionne, si tu me permets? C'est parce que, effectivement, entre le Saint-Esprit et Jésus, il y a toujours une petite confusion qui parfois remet en cause à certains moments la divinité de Jésus, ou parfois on va dissocier la personne de Jésus et la personne de Dieu en Jésus. Et c'est certains qui utilisent cette phrase justement pour dire que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais la mère de Jésus, et que c'est par la suite que Jésus va revêtir sa divinité lorsque le Saint-Esprit descend sur lui après le baptême. Bref, c'est une question que j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de nous édifier là-dessus. Quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie de Jésus? Merci.
Alors, c'est un peu technique, donc je nous invite à bien suivre. Déjà, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Jésus est plus vieux que Dieu, le Père. C'est choquant d'entendre ça, non?
Amen, amen.
C'est choquant, hein?
Oui, ça m'embrouille.
Alors, si une personne peut garder son micro ouvert, vraiment, ça me permet de savoir comment on s'écoute. Alors, super. Une autre personne à part le frère Daniel, ouvrir son micro, s'il vous plaît. Vraiment.
Amen.
Ok, Daniel. Amen. Alors, Jésus, c'est choquant ce que je dis, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une seconde, c'est plus long. Une seconde, c'est plus long que l'éternité. Simplement parce que l'éternité, en fait, ne s'inscrit pas dans le temps. L'éternité est hors du temps. Jésus est plus vieux que Jésus a pris cher. Et comme il a pris cher, il a donc vieilli, puisqu'il est dit, la condition nous dit qu'il est mort à 33 ans. Donc, comme il a eu à vieillir, alors il est plus vieux que Dieu, parce que Dieu est toujours jeune. Dieu est toujours jeune, pourquoi? Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de vieillesse. Parce que l'éternité,
amen,
est hors du temps. Je sais que ce que je dis est technique.
Alléluia.
Je suis obligé de le dire d'abord pour qu'on comprenne la suite. Vous voyez? Voilà. Donc, l'éternité, c'est être hors. L'éternité, c'est être hors du temps. Et du coup, l'éternité n'a pas de passé, de présent et de futur. Ceux qui ont là où il y a le passé, le présent et le futur, donc le temps, on a donc la possibilité de vieillir. Mais dans l'éternité, comme il n'y a pas de futur, alors on ne vieillit pas. Amen.
Amen.
C'est important que
amen. Amen. Alors,
Jésus-Christ de Nazareth a décidé de j'ai envie de dire, il a vécu ce qu'on appelle la kénose. La kénose, ça voudrait dire en fait que malgré le fait qu'il soit Dieu, il a décidé de prendre la condition humaine. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il n'est pas moitié Dieu, moitié homme. Il y a des religions et des courants de pensée qui disent que Jésus est en même temps Christ. Et en fait, il est moitié Christ. Et celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus. Ensuite, dans la résurrection, ce n'est pas Jésus, c'est l'homme. C'est Christ, Dieu, c'est n'importe quoi. Bien-aimé, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Parce que sinon, en fait, Dieu serait en train de se jouer de nous. Dieu a pris la condition humaine afin que nous prenions la condition divine. Que vous comprenez ça? Dieu a pris la condition humaine pour que vous preniez la condition divine. Normalement, quand je dis une chose comme ça, c'est tellement puissant que les malades doivent guérir au nom de Jésus. Pendant même qu'on en parle, les gens doivent être convaincus désormais que leur vie ne peut pas échouer et qu'il y a toujours un miracle qui est possible dans leur vie parce que Dieu est venu pour nous afin que nous soyons Dieu.
Amen, amen, amen.
Alors,
amen,
quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie de Jésus? Bien-aimé, lorsque Dieu le Père va parler au moment du baptême de Jésus, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Écoutez-le. Le Christ, la Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Jésus-Christ est l'humble par excellence, il est l'humilité même, c'est pourquoi Dieu l'élève. Mais, et pourtant, Dieu n'élève pas, Dieu va dire qu'il faut écouter Jésus, il glorifie Jésus quelque part, en tout cas, il va le présenter au monde comme étant celui qui est l'humble, qui honore en fait sa volonté avant même que Jésus ne soit mort sur la croix. En fait, je vais vous le dire, peut-être que vous ne le saviez pas forcément, le baptême de Jésus est une préfiguration de sa mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Le baptême de Jésus est une préfiguration de la mort sur la croix. Le baptême de Jésus est déjà le début du portement de la croix de Jésus et de sa souffrance.
Alléluia.
En se baptisant, il prend déjà nos pieds, j'ai envie de dire, il préfigure déjà la prise de nos péchés parce qu'il s'identifie aux pécheurs. Ceux qui se faisaient baptiser par Jean, c'est ceux qui avaient besoin de conversion. Jésus se fait baptiser par Jean pour faire comprendre qu'en fait, il prend nos péchés et donc, en prenant nos péchés, il se comporte comme s'il était pécheur. Il agit comme s'il était pécheur parce qu'il a pris ses péchés, nos péchés dans sa chair, au moment même où il allait rencontrer Jean. Donc, Jésus avait déjà Jésus a obéi à la croix avant même d'être à la croix dans le temps. Pourquoi Dieu va dire ceci, va dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, de ça, machin, alors que je n'ai pas encore allé à la croix? C'est parce que de toute éternité, donc avant que Jésus ne vienne sur la terre et ne soit déjà dans le temps, quand il était dans l'éternité avec le Père, il avait déjà dit un oui éternel. Le Christ était obligé d'obéir à Dieu. Pas obligé parce qu'il n'avait pas le choix, mais en fait, son choix était déjà fait dans l'éternité. C'est pourquoi quand Dieu parle parce que avant même que Jésus ne meure sur la croix, il était déjà mort sur la croix, d'une certaine façon, dans l'éternité. C'est d'ailleurs pourquoi le sacrifice de Jésus est pour le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi dans le sacrifice qu'on fait dans le Testament, dans le Seigneur, Jésus était déjà mort sur la croix. C'est pourquoi le sacrifice, en fait, des animaux et de ça, machin, rassasiait le Seigneur. Parce que bien que, quoi que dans le temps, Jésus ne soit pas mort sur la croix, le oui était déjà là. Et donc, il fallait juste constater dans le temps la mort de Jésus. Je sais que ce que je dis est un peu compliqué. Mais regardez, je simplifie et je conclue en disant ceci. Lorsque Jésus vit la kénose et qu'il vient sur la terre, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et comme il est vrai Dieu et vrai homme, il décide, étant dans le temps, de vraiment vivre la condition humaine et donc de se dépouiller entièrement. Jésus, bien qu'étant puissant, ayant le pouvoir, étant tout puissant, va décider, étant sur la terre, de dépendre de l'Esprit comme une personne qui vit et qui a connu le péché parce qu'il a porté le péché. Est-ce qu'on
se comprend ? Alléluia ! Amen !
Dans la vie de Jésus, c'est la même place qu'il a dans ma vie et dans la terre.
Alléluia !
Amen.
A pris le péché dans sa chair, dans sa vie, de sorte qu'il nous montre déjà par avance comment nous devons vivre et comment nous pouvons vivre et surtout comment nous pouvons effectivement vivre dans la gloire et vivre en enfant de Dieu. Est-ce que ce que j'ai dit là tout à l'heure est clair?
Amen.
Amen. Vraiment, amen. Merci. Merci beaucoup, frère André. Vraiment, je sais vraiment à Dieu la gloire. Je bénis le Seigneur pour toi, pour ta vie, pour tes réponses qui sont venues comme éclairer mon intelligence. Alors, soit en dit en passant, avant que le frère André ne continue, j'aimerais vraiment, vraiment que quelqu'un m'aide à glorifier le Seigneur parce que je vous assure, ce que je viens à peine d'expérimenter aujourd'hui, c'est la preuve que ce que nous faisons ici, c'est extraordinaire. Je vous assure que la pluie s'est arrêtée complètement. Alors qu'elle avait commencé à souffler de toutes ses forces, mais elle s'est complètement arrêtée alors que nous étions en train de prier ici. Amen. Et donc, on l'a déclaré, le Seigneur a complètement arrêté la pluie. Moi, personnellement, je suis étonné, je suis choqué. Vraiment, vraiment, merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce qu'il nous fait vivre, vraiment. Alors, je ne sais pas si chez toi aussi il pleut encore. Je ne sais pas si chez toi il pleut encore, mais ce que je peux te dire, c'est que s'il pleut chez toi, déclare que la pluie s'arrête dans le nom suprême de Jésus et que nous tous, nous puissions pleinement vivre le miraculeux, vivre dans le surnaturel. Amen, Seigneur, sois béni puissamment parce que ce soir, tu nous donnes non seulement la théorie, mais tu nous donnes aussi la pratique. Donc, merci beaucoup, le frère André. Je vais continuer justement à te poser des questions. Parce que vraiment, là, je suis dans l'esprit, là. Je suis dans l'esprit. Ce que tu dis me donne justement de rentrer effectivement dans la vie surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne de vivre. Alors, je ne sais pas si la réponse que le frère André a donnée vous a éclairé comme elle m'a éclairé. Mais je crois que si ce n'est pas le cas, comme on disait tantôt, vous pouvez écrire en commentaire. Voilà, vous pouvez écrire en commentaire que voilà, je n'ai pas bien compris cette partie. Et ensuite, on pourra faire un petit récap à la fin. Voilà, merci. Alors, donc, la deuxième question de Daniel, Daniel et Dimas, sûrement, je crois. Alors, elle dit, comment... Ok, d'accord. Alors, elle dit, comment reconnaître que l'on vit le surnaturel de Dieu et non du diable? Comment reconnaître que l'on vit le surnaturel de Dieu et non du diable? Alors, juste comme ça... pour orienter la question, parfois il y a cette rumeur qui dit qu'il y a des hommes de Dieu qui vont pactiser avec le démon pour faire des prodiges, alors, pour faire des signes. Alors, comment justement reconnaître que l'on vit le surnaturel qui vient de Dieu et non celui qui vient du diable? Merci.
Ok, super. Alors déjà, il faut éclaircir quelque chose. Hein. C'est vraiment important de le dire. Le diable est une créature. Il n'est pas le créateur. Donc, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Aucun démon ne l'est. Voilà. S'il n'est pas omnipotent, ça veut dire qu'il ne peut pas tout faire. Est-ce que vous comprenez ? Ouais. Il ne peut pas tout faire. Il peut mentir, faire semblant. Il a de la puissance, il y a des choses qu'il peut faire. Mais Satan ne peut pas tout faire. Satan ne peut pas faire qu'une femme qui n'a pas connu d'homme puisse avoir un enfant comme ça. Il ne peut pas le faire. Vraiment, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il faut que ce soit bien clair. Il y a des œuvres que seul Dieu peut faire parce que seul Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on se comprend ?
Alléluia.
Si on comprend ça, on va donc comprendre déjà d'emblée que aller voir des féticheurs, des sorciers, être franc-maçon et tout ça, machin, ça donne une puissance extrêmement limitée. Mais celui qui est en Dieu est détenteur d'un Dieu qui a une puissance illimitée et d'un Dieu qui, à cause de son amour, sert l'homme, comme Jésus va le montrer en lavant les pieds de ses disciples. Les sorciers, les francs-maçons et les autres ont une puissance limitée. Nous avons une puissance illimitée. Démonstration. Moi, je me rappelle un jour, j'étais assis à la maison, on faisait une fête, et puis il y a un monsieur qui traverse la route, il vient à la maison, on lui sert à manger, moi je suis faim, donc vous savez, chez les faims, même si on ne te connaît pas, tu peux arriver quelque part dans une fête, tu commences à manger, personne ne va te poser la question. Et puis il a commencé à prophétiser, il a commencé à parler dans la vie, il parlait à ma mère, il a parlé à mon grand frère, qui voyait ça. Et puis il a osé m'appeler en disant, toi je vois une étoile sur toi. Et en fait, la vérité, c'est que je le calculais depuis. Je me suis assis. Il a commencé à dire, toi, en tout cas, je vois qu'après l'université, tu vas travailler rapidement. Moi aussi, j'ai activé pour moi. Je l'ai bloqué. Je lui ai dit, tu es un menteur, je travaille déjà. Et je lui ai dit, par contre, toi, tu ne travailles pas. Toi, tu es à l'université Omar Bongo. Tu es en deuxième année de sociologie. Et si tu ne te convertis pas, vous êtes en pleine période de devoir. Si tu ne te convertis pas, non seulement tu vas rater ton devoir, mais tu ne travailleras presque jamais dans ta vie.
Alléluia.
Il avait les larmes, il s'est levé, il a laissé son plat, il a traversé, il est parti. C'était vrai ce que je disais. Bien aimé, nous sommes des tenteurs à cause du fait que nous ayons Dieu dans nos vies d'une puissance illimitée. Tant que c'est dans la volonté de Dieu, bien sûr, une puissance d'amour illimitée dans la volonté de Dieu. Et donc, comment savoir que c'est un miraculeux qui, le miracle vient de Dieu et pas du diable. Déjà, comme c'est personnel, je pense qu'il s'agit en fait d'un discernement qui doit se faire personnellement. La première chose à savoir, c'est qu'il y a des choses, seul Dieu peut le faire. Deuxième chose à savoir, c'est que le diable n'a pas de pouvoir sur l'intérieur. Il n'a de pouvoir que extérieur. En d'autres termes, lorsque ton cœur est transformé pour le bien, ça ne peut pas venir du diable, c'est impossible. Quand je parle de pouvoir, je parle ici du bien, parce que le mal n'est pas un pouvoir, le mal est une destruction, et le mal, quelque part, est déjà lié à la pensée humaine. Je m'explique. Pour haïr, on n'a pas besoin du diable. L'homme n'a pas besoin du diable. Jésus-Christ va dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Bien-aimés, les pensées du diable et celles des hommes sont très ressemblantes parce que l'homme est orgueilleux et le diable l'est tout autant. Vous voyez ? Du coup, la transformation intérieure, la réalité de la transformation intérieure ne peut être que liée à Dieu dans la mesure où la transformation du mal au bien ne peut pas être effectuée par l'homme lui-même. Ça ne peut venir que de Dieu. Ça veut dire quoi ? Puisque la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que les œuvres de l'Esprit sont la paix, la joie et des choses semblables qui sont intérieures, ça voudrait dire que quand dans ton cœur tu étais triste et que tu es joyeux, en fait, ça ne peut pas venir du diable, ça ne vient venir que de Dieu. Une personne qui est extrêmement... Si vous lui dites qu'il vient du diable, En fait, vous avez un problème avec Dieu. Vous êtes en train de faire un contre-témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie. Tout ce qui a un rapport avec l'amour, la vérité, la joie, la paix et la patience dans le cœur de l'homme ne peut venir que de Dieu. C'est un surnaturel qui ne peut venir que de Dieu. Ça, c'est deux. Troisièmement, d'un point de vue extérieur, comment discerner lorsqu'un miracle vient de Dieu ou un miracle vient justement de Satan? La première chose, c'est que le miracle de Dieu ne glorifie que Dieu. Le Saint-Esprit ne glorifie que Jésus. Hein. Le Saint-Esprit ne glorifie pas le diable ni un homme. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'un miracle ne dit pas Dieu, ne dit pas Jésus-Christ de Nazareth, je recommence ça. Lorsqu'un miracle ne dit pas Jésus-Christ, je n'ai pas dit ne dit pas Dieu. Je dis même ne dit pas que là, je ne parle pas bien. Je dis quand un miracle ne dit pas Jésus-Christ de Nazareth, alors ça ne vient pas de Dieu.
Amen.
Le miracle dit Dieu. Il est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 53, je répète. La révélation se fait par des actions et des paroles qui sont intimement liées. En d'autres termes, la parole dit l'action et l'action dit la parole. Dieu dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. C'est intime. Miracle dit la parole de Dieu. Le miracle rend témoignage à la parole de Dieu. Le miracle ne peut renvoyer qu'à la gloire de Dieu.
Amen.
Amen, 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 amen.
Amen. Amen.
Donc, premier critère, lorsque vous constatez qu'un miracle ne glorifie pas Jésus-Christ, mais glorifie un homme, ou n'oriente pas vers le Christ, alors ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais dans le cas où ça viendrait quand même de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont reçu des dons et qui ne sont plus en Dieu, donc veulent s'approprier la gloire de Dieu, pour le reconnaître, ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux cas. Quand un miracle ne dit pas Jésus-Christ, soit un, ça dit le diable, et donc ça ne vient pas de Dieu, soit deux, ça peut venir de Dieu parce que Dieu aime la personne, mais la personne n'est plus en Dieu, et donc la personne se condamne elle-même. Un miracle doit toujours dire Jésus-Christ. Un miracle doit toujours dire Jésus-Christ. Et troisièmement et dernièrement, pour discerner pour soi-même et même pour l'autre aussi, lorsqu'il y a miracle, pour savoir que ça vient de Dieu et pas du diable, parce que c'est le but, ou que ça vient du diable et pas de Dieu pour pouvoir être du côté de Dieu toujours et rejeter le mal, comme dit l'apôtre Paul, l'autre chose à faire, c'est véritablement avoir une pratique régulière des mœurs divines. Les mœurs divines, ça veut dire quoi? Celui qui fait dans la vérité, qui excelle dans la vérité, aura tendance de façon instinctive, aura tendance à reconnaître la vérité et soupçonner le mal, juste parce qu'il est dans la vérité. Il aura tendance, ça veut dire qu'il y aura quelque chose en lui, parce qu'il est tellement dans la vérité, qu'en fait, il le reconnaît. Il ne fait pas exprès. C'est quelque chose qu'il côtoie tellement qu'en fait, ça va être évident avant même qu'il n'en ait l'explication. Et dernièrement, mais la Bible nous donne généralement, tout miracle va toujours avoir une référence biblique. Tout miracle va avoir une référence biblique. Un jour, j'ai douté de ce que je suis en train de dire parce que quand j'ai failli être assassiné, Dieu a arrêté la course du soleil, donc il a arrêté le temps. Je me suis dit, mais donc tout miracle ne vient pas de la Bible. Et je suis tombé dans le livre de Josué lorsque Josué justement a vécu la même expérience. Dieu a arrêté la course du soleil, il a arrêté le temps. Tout miracle va trouver une référence dans la Bible.
Amen. Voilà.
Est-ce que c'est suffisant ou bien il y aurait besoin encore d'un autre élément?
Amen, vraiment, amen. Alors, rapidement, je m'aurais demandé, est-ce que la Daniel en question est présente? Si tu es présente, dis simplement amen.
Amen.
Ah, ok, d'accord. Sois béni, Daniel. Alice, Daniel. Ok. Alors, je vais poser la dernière question de Daniel.
Alors, frère André, elle demande que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit que le royaume des cieux est parmi nous, que le royaume de Dieu est parmi nous.
Alors, que veut dire le Seigneur lorsqu'il dit que le royaume des cieux est parmi nous? Alors, qu'est-ce que le royaume des cieux? Alors, le royaume des cieux, bien-aimés, ce n'est pas le coca. Moi, je me rappelle quand j'allais au village, j'étais petit. J'ai un parent qui me disait souvent que dans le ciel, il y a une chute de Coca-Cola bien glacée. Bien-aimés, le royaume des cieux, ce n'est pas le Coca-Cola. Le royaume des cieux, ce n'est pas le Valhalla. Le Valhalla où on se bat éternellement et puis on boit des coupes d'hydromel. Non, avec des cornes. Le royaume des cieux, ce n'est pas comme chez les musulmans où tu vas trouver des vierges à satiété là-bas avec qui tu pourras coucher. C'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Mais simplement parce que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil parce que Dieu sera leur lumière. Bien-aimés, le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Lorsque le Christ va prêcher l'évangile après Luc chapitre 1, quand il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il dit que le royaume des cieux est au milieu de vous, en fait, il dit « Je suis au milieu de vous, moi qui suis Dieu ». Et frères et sœurs, si le royaume des cieux était au milieu d'eux, c'est parce que Dieu lui-même, qui est le royaume des cieux, qui rend le royaume des cieux possible par sa présence et sa personne, alors, en réalité, le royaume des cieux, au milieu de nous, ça veut dire Dieu au milieu de nous. Comprenons bien
une chose. Amen.
Le royaume des cieux, c'est l'atmosphère qui existe quand Dieu est quelque part.
Alléluia.
En fait, lorsque nous prions charismatiquement, nous faisons l'expérience du royaume des cieux. Quand tu pries, amen, tu fais l'expérience du royaume des cieux. Au ciel, tu vivras le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est quand Dieu est quelque part. Quand Dieu est quelque part, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Sa présence modifie déjà l'atmosphère et donne l'atmosphère de la vie. On peut le voir dans Genèse, alléluia, chapitre 1, il est dit qu'il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Il y avait les ténèbres et tout ça, c'était le tohu-bohu, le chaos. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et puis Dieu dit que la lumière soit. Frères et sœurs, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut et l'atmosphère est devenue une atmosphère de création, donc de vie.
Alléluia.
Voilà. Donc, le royaume des cieux, bien-aimés, c'est la vie parce que Dieu est quelque part.
Amen. Est-ce qu'on se
comprend? Amen. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment clair pour tout le monde. Alors, Daniel, Alice Daniel, justement, ce n'était pas sa dernière question. Elle en a d'autres. C'est moi qui ne m'en étais pas rendu compte. Alors, ces deux dernières questions peuvent se résumer en une seule. Première question, elle dit, comment faire pour rencontrer la personne du Saint-Esprit? OK? Sa première question. Et la deuxième question, c'est la suivante. Elle dit ceci. Elle dit, qu'est-ce qu'on entend par le Saint-Esprit est une personne? Donc, premièrement, comment faire pour rencontrer la personne du Saint-Esprit? Entre parenthèses, par quel moyen concret? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on entend par le Saint-Esprit est une personne? Voilà. Allô?
Donc, je disais, nous tirons là vers la fin de notre temps. C'est peut-être la dernière question de ce soir, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est certainement l'une des questions, sinon la question la plus importante. Donc, comment faire l'expérience du Saint-Esprit et qui est le Saint-Esprit? C'est ça, non?
C'est ça. Oui, c'est ça, comment faire l'expérience, comment rencontrer la personne du Saint-Esprit, et quand on entend par le Saint-Esprit, est une personne.
OK, très bien. Alors, le Saint-Esprit, je commence par le Saint-Esprit est une personne. Le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI a dit que... Il parle du Saint-Esprit comme étant une atmosphère de don. Et il dit, il a un cœur. Le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, voilà, Ratzinger, qui est un grand théologien, un éminent théologien, émérite, il dit, le Saint-Esprit a un cœur, il a des sentiments. Il a un cœur, il a des sentiments, il permet l'atmosphère de don. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, il me semble, verset 30, si je ne me trompe pas, il faudra vérifier, « N'attristez pas le Saint-Esprit ou ne contristez pas le Saint-Esprit. » Ça voudrait dire qu'il a des sentiments. Vous voyez, il a des sentiments. La Bible dit ceci aussi, c'est Jésus qui parle, il dit « Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. » Il parle du Saint, du Père, il parle du Fils et il parle du Saint-Esprit qui est une personne qu'il met au même rang, au même titre. Sinon, il parle du Saint-Esprit comme le, il parle du Père comme il parle de lui-même. Vous voyez, lorsque Jésus va au ciel, lorsqu'il est ressuscité, il ressuscite, il dit ceci, il dit baptisé au nom du Père. Père, c'est P apostrophe P en majuscule, Fils, F majuscule et Saint-Esprit, S majuscule. Esprit majuscule, E majuscule. On sait qu'en français, lorsque un mot commence par une majuscule en plein milieu de phrase, ça veut dire que c'est un nom propre. C'est une personne. Le Saint-Esprit est donc une personne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas le doigt de Dieu, il n'est pas la puissance de Dieu, il n'est pas la force agissante de Dieu. Non, c'est une personne. La preuve que c'est une personne, l'apôtre Pierre, lorsqu'il va rencontrer Saphira, je pense, hein, c'est Saphira, qui... c'est dans Actes des Apôtres, je pense, chapitre 3 ou chapitre 4, parce que les apôtres, les disciples vont tout partager en commun et ils vont arriver, il va arriver, il va mentir en disant que voilà ce qu'il a eu en vendant ses terrains, mais il va mentir. Et l'apôtre Pierre va dire, mais pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Et lorsqu'ils vont faire le premier concile, l'apôtre Pierre va dire, le Saint-Esprit et moi avons décidé. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. Il a un cœur, il a des sentiments, c'est une personne. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une personne? Ça voudrait dire qu'il a une volonté qui lui est propre, il a des sentiments, il a tout ce qu'une personne a, comme le Père et le Fils. C'est ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit, tu peux parler avec lui, c'est une personne. Moi, j'ai un ami, il s'appelle, il est en Côte d'Ivoire, il avait l'habitude de parler avec le Saint-Esprit et même de lui offrir une bouteille d'eau, un verre d'eau. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne, la Bible dit. Et en fait, c'est une personne que Dieu nous recommande. Lorsque le Christ va parler, je finis dessus, il dit, vous allez recevoir un autre paraclet. En grec, c'est « otros parakletos ». Et « otros », bien-aimé, ça veut dire une personne qui est comme moi. Et « parakletos », c'est « consolateur ». Et donc Jésus dit, vous allez recevoir une autre personne, une personne qui est comme moi, qui est un consolateur comme moi, qui bénit comme moi, qui est auprès de vous un protecteur comme moi, un avocat. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne, ça voudrait dire que le Saint-Esprit est a une volonté, il a une conscience, il a un cœur, il a des sentiments. Mais sauf qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, ça voudrait dire qu'il est amour, frères et sœurs. Et comme il est amour, alors il est de nature divine d'amour, il est tout puissant d'amour, il a des sentiments d'amour, il est vérité, il a sa volonté qui lui est propre, est une volonté d'amour qui est donc en pleine communion avec la volonté du Père et la volonté du Fils. Ils ont une volonté qui leur est propre chacun, mais comme c'est des volontés d'amour et qu'ils sont tous amour, alors c'est une volonté qui est en pleine, en parfaite communion. Est-ce qu'on se comprend?
Amen, amen.
Est-ce que c'est clair?
Amen. Oui, on m'écoute?
Oui.
Oui, on t'écoute.
Alors, y a, rapidement, frère André, il y a une dernière question. Dernière question, c'était avant-dernière.
Ah, j'ai failli oublier.
Alors, la dernière question.
Comment est-ce qu'on fait pour faire l'expérience du Saint-Esprit? Alors, je vous assure, c'est hyper simple. C'est hyper simple. En théologie, on parle de l'économie du salut, donc comment est-ce que Dieu a fait pour rencontrer l'homme? C'est hyper compliqué. Le Seigneur a d'abord choisi un homme, Abraham. Au travers d'Abraham, il a montré qu'il était puissant et amour en donnant à Abraham un fils. Le fils, là, a eu deux fils. Il a eu Jacob et Ésaü. Il a choisi Jacob. Jacob a eu 12 fils. Il a fait que d'une seule personne qui était stérile, il y a une multitude de personnes. cette multitude de personnes, il a justement, il a fait en sorte que cette multitude de personnes, malgré leurs péchés, il les ramenait, il envoyait ses serviteurs, il les a aimés pour montrer au monde en fait qu'il est amour. Mais en même temps que c'est un Dieu qui est juste. Bien-aimé, après il va envoyer Jésus-Christ qui est Dieu, il va devenir chair. Après des prophéties, de longues prophéties et des milliers d'années, lorsque Jésus arrive au travers d'une vierge, c'est compliqué parce qu'au début on cherche à le tuer. Et ce qui va se passer, c'est ceci. C'est que Jésus-Christ va faire son ministère. Il va mourir sur la croix. Il va choisir les apôtres. Et puis le Saint-Esprit va descendre et tout ça, tout ça. Jésus, Dieu a dragué l'homme très longtemps, bien-aimé. On te parle d'une drague de près de 4000, 5000, pratiquement 4000 ans. Bien-aimé, Dieu a dragué l'homme pendant 4000 ans. Mais vous savez, quand on s'approche d'une femme, lorsqu'un homme s'approche d'une femme, il va draguer pendant longtemps. Mais la réponse de la femme, c'est une seconde. Lorsque la réponse de la femme a dit oui en une seconde, là, le mariage ne dure pas. Normalement, hein, pour les hommes sérieux, quoi. Mais je crois qu'ici, dans le disciple de Jésus, il n'y a que des hommes sérieux. Le mariage ne dure pas. Le couple l'a compris après 2 ans. C'est trop long. C'est trop, trop long. Bien aimé, c'est trop long. En fait, c'est trop long. Voilà. On n'a pas besoin d'étudier. Je veux dire, ce n'est pas l'école. Hein. Donc.
Amen.
Alors, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu a déjà fait tout le travail. Il nous a dragués assez longtemps. Il nous demande juste une seule seconde pour dire oui. Donc, comment dire oui? Comment accueillir l'amour de Dieu après qu'il nous ait dragués aussi longtemps? C'est simple. Il suffit d'être pauvre et de dire, Seigneur, je ne suis rien. Donc, sois tout en moi et je veux que tu sois avec moi. C'est tout. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, « Demandez, on vous donnera ». C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. C'est pourquoi le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Nous dit Jésus, il va le dire à Nicodème. « Bien-aimé, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai connu l'amour de Dieu, j'avais l'âge de 7 ans. Mais plus on est grand, plus on a du mal, parce qu'on est trop intelligent, trop orgueilleux, et on est trop compliqué. On est habitué à gagner les choses. Et les hommes sont spécialistes en ça. Les femmes, en quoi elles sont mieux, mais les hommes sont spécialistes en ça. » Quand on prie pour eux, ils ne veulent pas tomber par son pont. Bien aimé. Et quand tu fais ça, en fait, tu refuses Dieu. Hein. Le Saint-Esprit est un gentleman. En réalité, beaucoup d'entre vous avez chassé le Saint-Esprit par votre attitude mauvaise et orgueilleuse. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas crier. Je ne veux pas pleurer. C'est nul. Bien aimé, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit et rencontrer Dieu tous les jours, tu n'as qu'une seule chose à faire.
Allô?
Andréan, ton micro est coupé.
Désolé. Alors, comment rencontrer le Saint-Esprit? Ben, c'est simple. Il faut décider d'être pauvre et d'être rien. Donc, d'être vrai. La pauvreté et le rien, c'est la vérité de tout homme devant Dieu. Donc, le jour où tu vas dire, Seigneur, et qu'on dit, Seigneur, sincèrement, hein, j'ai peut-être beaucoup d'argent, je suis intelligent, mais tout ça, c'est toi qui m'as donné. Je ne suis rien. J'ai besoin de toi. C'est en fait ce jour-là que Dieu viendra dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Si tu n'en es pas capable, tu peux même dire, Seigneur, je n'en suis pas capable, mais Seigneur, toi qui es capable de tout, fais-le pour moi. Il le fera. C'est aussi simple que ça. Demander, on vous donnera. Voilà. Tu peux dire la dernière question.
Amen. Merci beaucoup, frère André. Alors, je vois rapidement que André ayant a dit le dire suffit-il pour que ce soit le cas. Ben, je pense que comme le frère André le disait tantôt, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont écrites vraiment dans la Bible, dans l'Écriture sainte. Et ça paraît banal parce qu'on se dit, est-ce que si je le lis tout de suite, ça va marcher? Normalement, il faudrait d'abord avoir aussi un regard lucide sur soi-même. Est-ce que ce que tu dis est en conformité avec ce que tu ressens et avec ce que tu penses dans ton cœur? Donc vraiment, c'est ça toute la petite complexité de l'exercice. La vérité, c'est que la parole qui sort de nous doit être le reflet de ce que nous pensons dans notre cœur. C'est quand même bizarre de dire penser et mettre le cœur dans la même phrase, mais effectivement, c'est dans la pensée du cœur que le Christ se révèle et le frère André l'a si bien expliqué. Donc, merci beaucoup André pour ta réponse. Je pense que ça nous a bénis. Et voilà, donc maintenant, je te demande à toi, mon frère, ma sœur, qui a envie d'expérimenter le Saint-Esprit, de faire cet exercice. Parce que ce que nous faisons ici, c'est aussi de faire en sorte que les personnes puissent vivre des vrais témoignages avec l'Esprit. Voilà. Et de revenir et rendre témoignage de ce qui se passe. Alors, rapidement, je vais poser une dernière question, Andrés, rapidement. Alors, c'est toujours, je crois, Daniel. Non, c'est Tiles. Tiles ou Tiles. Ouais, je crois que c'est Tiles. Elle nous dit ceci. Elle nous dit que est-ce que le fait d'être en Christ est péché? C'est-à-dire le fait de vivre dans le surnaturel et de pécher, donc de tomber, entache définitivement notre vie spirituelle. Donc, le premier volet de sa question. Et le deuxième volet de sa question, c'est est-ce que le pardon de Dieu restaure complètement notre vie spirituelle? Merci.
André, ton micro est coupé.
Je ne sais pas si j'ai bien entendu la question. Est-ce que tu peux répéter, Daniel, la dernière question là?
La dernière question est la suivante. Mmh. Est-ce que le fait de vivre dans le surnaturel, donc est-ce que le fait d'être en Christ et de pécher, donc de tomber, cela entache définitivement notre vie spirituelle? C'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question, c'est est-ce que le pardon de Dieu restaure pleinement notre vie spirituelle?
Alors, le péché n'est pas une création. Il y a des gens qui se demandent, qui disent que Dieu a créé le mal puisque Dieu a tout créé. Je vais vous décevoir, Dieu n'a pas tout créé. Dieu n'a pas créé le mal parce que le mal n'est pas une création mais une destruction. Alors, est une corruption, voyez. Et donc, le péché est corruption. Le péché est destruction. Lorsqu'un homme va sortir, coucher avec un autre homme, ce n'est pas une création, c'est une destruction de la réalité, des choses premières que Dieu a créées, voyez. Lorsque je tue une personne, je ne crée pas, je détruis. Lorsque je vole, je ne crée pas, je détruis l'autre. Lorsque j'insulte, je ne crée pas, je détruis. Le péché est destruction, frères et sœurs. Le péché est destruction. Et comme le péché est destruction, le but du péché, c'est de détruire notre relation avec Dieu. Le but du péché, c'est de détruire notre relation avec Dieu, non pas en s'attaquant à Dieu, parce que Dieu, car il est tout puissant, il est en dehors du temps, il est vraiment loin de tout ça. Le but du péché, c'est de détruire notre relation avec Dieu en détruisant l'homme. Est-ce qu'on se comprend? En détruisant l'homme, en détruisant le cœur de l'homme, les bons sentiments de l'homme, l'amour qui est dans l'amour de l'homme, en fait, en détruisant la personne humaine, de sorte que cette personne humaine, ne pouvant plus s'identifier à Dieu, s'éloigne d'elle-même. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse au chapitre 3, lorsque l'homme et la femme pêchent bien-aimés, ils s'éloignent eux-mêmes de Dieu, puisqu'ils ont honte, frères et sœurs. Ils ont honte. Alors le péché va, oui, détruire notre relation avec Dieu parce que le péché va toucher l'homme et l'homme va s'éloigner lui-même de Dieu, même s'il a vécu dans le surnaturel. Et ce qui se passe, c'est que la Bible fait bien la distinction entre les péchés. Il y a des péchés qui mènent à la mort, dit l'apôtre Paul, et puis il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Dans l'Église catholique, le nom que nous donnons à ces choses-là, c'est péché véniel et péché mortel. C'est quoi un péché véniel? Un péché véniel, c'est un péché qui est une tâche, c'est un péché, c'est un mal, mais c'est un mal qui ne va pas détruire notre relation avec Dieu dans la mesure où c'est un péché qui n'est pas très grave. Voilà. Le péché mortel est un péché qui est tellement grave que ça va toucher notre relation avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh non, mais péché, c'est péché, machin. » Calmez-vous, je vous explique. Alors, en réalité, le péché va être grave ou moins grave en fonction du dommage que ça crée à autrui ou à nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Si je dis à l'autre « imbécile », ce n'est pas pareil que si je lui coupe une jambe. Si une femme marche dans la rue, excusez-moi de prendre des exemples chocs comme ça, hein, une femme marche dans la rue et que je viens, je lui vole, elle vient de prendre son salaire, je viens, je lui prends dans son salaire, je lui vole 5 000, ce n'est pas la même chose que si je lui vole tout, frères et sœurs. Ce n'est pas pareil, parce que le mal causé à autrui va être différent, va être plus ou moins grave, donc en fonction du dommage que ça crée, de la souffrance que ça engendre, le péché va être grave, donc mortel ou véniel. C'est vrai à l'égard de l'autre, mais c'est vrai à l'égard de nous-mêmes. Je donne un exemple. Lorsqu'une personne refuse l'amour de Dieu dans sa vie, il se condamne lui-même. Mais lorsqu'une personne décide, par exemple, je ne sais pas moi, de prendre un verre en plus, il prend un verre en plus parce que bon, il prend le verre de Jack Daniel's de trop. Je suis désolé, c'est un péché, ce n'est pas bien, c'est vrai. Mais c'est moins grave que celui qui refuse l'amour de Dieu, parce que celui qui va prendre le verre en trop, il peut se convertir tout à l'heure, il va prendre le verre en trop, il va dormir, bon, Seigneur, voilà, ok. Mais celui qui refuse l'amour de Dieu, s'il meurt là, en fait, il va en enfer. Donc le péché va être différent, va être grave ou pas grave, ou moins grave, en fonction du dommage que ça crée à l'autre ou à soi-même. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, dans notre esprit, on a essayé de retranscrire ça dans nos lois humaines. Lorsque tu arrives au tribunal, les peines ne sont pas les mêmes. Il y a des crimes aggravés, des crimes de ça, des peines pour le vol, des peines pour les insultes, des choses comme ça. Tout est peine, tout est péché, tout est condamnable, mais les condamnations ne sont pas les mêmes parce que les crimes ne créent pas, ne causent pas les mêmes dommages. Amen.
Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, est-ce que le pardon de Dieu efface tout? Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Isaïe chapitre 1, verset 18. Venez et discutons. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. En fait, le pardon de Dieu est total. Le pardon de Dieu efface tout. C'est choquant, hein? Mais c'est vrai. Tu as tué, tu as violé, tu as machin. Le pardon de Dieu efface tout, même si toi et moi, nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. Et bien aimé, je suis d'accord avec vous si nous disons que nous ne sommes pas toujours d'accord avec Dieu. Demandez à mon ami Jonas. Jonas, après que Dieu ait pardonné et converti Ninive, il se fâche parce qu'il se dit, mais les gars, c'est des païens, ils font des choses bizarres, mais regarde, ils se convertissent et plus Dieu les aime comme ça. Il les épargne de la destruction. Mais Dieu n'est pas comme toi et moi. Tu peux te fâcher comme tu veux. Si ta prière, c'est que le frère, le sorcier ou le tel soit détruit, tu te mets le doigt dans l'œil. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Donc, plus vite tu essaieras de conformer ton cœur au Seigneur par le Saint-Esprit, plus vite tu auras moins de gourmet sur la terre. Tu seras moins aigri, parce que sinon tu vas passer ton temps dans la rue en te disant, « Rien que lui là, il ne prie pas, et puis Dieu l'a donné l'argent. Rien que lui là, il ne prie même pas, puis il y a une belle femme qui est chrétienne. Rien que moi lui là. » Bien-aimé, tu seras aigri. Dieu n'est pas comme toi et moi.
Amen.
Lorsque tu demandes pardon à Dieu, Dieu efface tout. Cependant, Dieu n'est pas comme les hommes. Donc, quand Dieu te pardonne, ben les hommes ne font pas forcément comme Dieu. Ça veut dire que si tu violes une femme et que Dieu te pardonne, ben l'homme ne va pas forcément te pardonner. Ou il ne va pas te pardonner comme Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des péchés lorsque nous les commettons, frères et sœurs, ça nous poursuit. Pas parce que Dieu ne te pardonne pas. Dieu va te pardonner, il met la paix dans ton cœur. Mais en réalité, l'homme ne va pas forcément le prendre comme Dieu. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est...
Amen.
Amen.
Oui, c'est très clair.
D'accord.
Ok. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'était la dernière question. Alors, j'espère que les personnes qui ont envoyé les questions ont justement eu des réponses. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai vu certaines réactions, notamment la réaction de Doris. Alors, nous avons pris en considération cela. Ce qui va se passer, c'est que nous allons très certainement écrire dans le groupe pour justement apporter certains compléments. Pour ceux qui n'ont pas bien compris. Oui, désolé. Alors, je crois que nous sommes en train de clôturer le temps. Alors, rapidement, avant qu'on ne clôture, si le frère André est d'accord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager, justement, par rapport à ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a, voilà, peut-être un petit témoignage? Est-ce qu'une réponse est venue éclairer ta lanterne? Est-ce que le Seigneur, justement, s'est révélé à toi à travers l'intervention du frère André? Rapidement, hein? Une personne ou deux, avant qu'effectivement nous ne clôturons. Est-ce que quelqu'un veut nous partager justement son ressenti, son retour par rapport à ce qui a été fait ce soir? Oui, allô Emmanuel.
Bonsoir. Moi, j'aimerais bien témoigner. Je veux témoigner parce que tout à l'heure, quand André a parlé, quand il a parlé de l'autorité de Jésus, lorsque tu as posé la question, je pense, de Alice Daniel sur quelle est la différence entre quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Il a cité une parole et pendant qu'il disait la parole, il disait qu'il y avait des personnes qui allaient expérimenter la guérison. Alors tout à l'heure, quand je suis arrivée à la maison, j'avais une douleur dans le dos. En fait, à peine arrivée à la maison, j'ai une douleur dans le dos qui était un peu dérangeante et je me demandais ce que j'avais. Et lorsqu'André a proclamé cette parole, la douleur a complètement disparu. J'aimerais juste dire que j'ai été bénie pendant cet échange, pendant le partage de la parole ce soir. Merci beaucoup et sois béni, frère André. Que Dieu te bénisse abondamment.
Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre rapidement qui aimerait faire un petit témoignage?
Bonsoir.
Bonsoir, Jussi.
Bonsoir, les frères. En fait, moi, je voulais juste apporter un petit plus par rapport à cette histoire de pluie. Tout à l'heure, je rentrais au window. Il ne pleuvait pas là-bas. Mais dès que je suis arrivé à l'échangeur du 5, la pluie était vraiment forte. Ça dit qu'elle venait de Zion. Une très grosse pluie et ça m'a vraiment énervée. Et en descendant, je me suis dit, bon, tout mon corps peut se mouiller, sauf ma tête. Vraiment, je n'ai pas la force pour faire le sèche-cheveux en ce moment. Et je suis très fatiguée. Et c'est comme ça que le cœur m'a dit, non, prends juste ton par-dessus et mets sur la tête. Le par-dessus, il est comme tous les autres tissus, coton, il prend de l'eau facilement. Et je l'ai mis sur ma tête, il pleuvait, j'ai marché pendant près de 25 minutes. C'est une forte pluie, je suis arrivée à la maison, tout était mouillé sur moi, sauf ma tête. Donc, quand le frère a parlé de la pluie, j'ai dit vraiment que le Seigneur m'a vraiment écouté et j'avais envie de partager ça avec vous.
Voilà, c'est tout. Gloire à Dieu. Amen.
Vraiment, aucune mèche n'est mouillée, aucune mèche.
Ah. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Gypsy, pour ton témoignage. Alors, on va rapidement prendre un dernier, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de faire un petit témoignage? Allô? Est-ce que le frère Charlie est là? Oui, André.
Bonsoir. En fait, bonsoir. Mon témoignage, c'est en fait sur l'état en fait, avec lequel j'ai commencé la réunion. Pas plus tard dans la journée, je me suis un peu disputée avec un ami et ça m'a beaucoup bouleversée. J'étais vraiment fatiguée, en fait. Émotionnellement, j'étais fatiguée. Donc, j'avais en fait la flemme de la flemme. En fait. Mais le Seigneur a comme si des paroles qui allaient être libres. Relâché, allait m'aider à m'apaiser. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, en fait, je sentais comme cette lourdeur s'en allait. Je sentais vraiment, en fait, que la douleur et le poids quittaient, en fait, vraiment de mon cœur. Et là, je me sens un peu plus légère. Et je remercie Dieu, en fait, car je ne sais pas comment il l'a fait, mais je me sens un peu plus légère et je pense avoir la paix, en fait.
Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André et Jan, pour ton témoignage. Je prie que le Seigneur continue de te donner cette paix. Vraiment, continue de te donner cette paix. Et c'est aussi effectivement un signe que le Seigneur travaille dans nos vies. C'est qu'il nous donne d'avoir une certaine paix. Donc, sois puissamment béni au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois qu'on a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour des petits témoignages. Enfin, j'espère que vous avez encore été bénis ce soir, que vous avez encore expérimenté justement la présence de Dieu. Comme je disais tantôt au début, le Seigneur se révèle à nous dans notre foi, mais aussi à certaines personnes s'y révèlent dans leur intelligence. Voilà. Et j'espère que vous avez été bénis comme moi ce soir. Alors, rapidement, juste préciser que nous avons cet exercice chaque dernier samedi du mois. C'est-à-dire, dans un mois, il y a quatre samedis. Le dernier, généralement, est consacré à cet exercice. Donc, nous allons, au fur et à mesure, procéder ainsi. On va envoyer des thèmes. Excusez-nous parce que cette fois-ci, le thème est arrivé en retard. Généralement, on donne au moins 4 jours pour que les personnes puissent prendre le temps d'envoyer des questions. La prochaine fois, on tâchera de faire mieux. Donc, vraiment merci. Merci pour ceux qui se sont mobilisés, pour ceux qui ont envoyé des questions. Et justement, dire que ce que nous faisons ici, ça n'engage pas que les membres du noyau. C'est une question de tout le monde. Ce serait vraiment, vraiment une bénédiction pour nous qu'à notre prochain temps, nous puissions dépasser la barre des 100 personnes connectées. Vraiment. Donc, je sais que chacun de nous ici travaille quelque part. Chacun de nous ici apprend quelque part. On a des amis qui ne sont pas forcément croyants. Et quelqu'un me disait récemment que parfois avoir honte de parler de Jésus à son ami, avoir honte parce qu'on estime qu'on va nous voir comme étant un super chrétien, cela fait que parfois on refuse la gloire de Dieu dans notre vie. Donc vraiment, j'aimerais t'inciter à inviter quelqu'un. Ça ne coûte rien. On ne te demande pas d'évangéliser la personne. On te demande de dire à ton ami, à ta copine, à ta sœur que voilà, chaque samedi, j'ai un temps avec tes frères. C'est vraiment édifiant. J'aimerais que tu puisses prendre du temps pour venir écouter. Et puis, voilà. Et je crois que ça va aussi contribuer à pleinement assumer ton identité de chrétien. Dire, écoute, moi, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais voilà, j'aimerais que tu viennes. Si tu n'as pas le temps, je comprendrai. Mais je pense vraiment que tu seras béni si tu viens écouter. Moi, c'est ça que je fais au quotidien. Et tu peux emmener 1, 2, 3 personnes. Je pense que si les 48 personnes ici présentes en emmènent au moins 2 personnes, vraiment, je pense qu'on va facilement dépasser la barre des 100. Donc vraiment, mobilisons-nous, invitons des personnes pour la semaine prochaine afin que nous puissions tous véritablement expérimenter encore la bénédiction de Dieu. Donc merci beaucoup. Alors, par rapport à la sœur qui a justement le frère qui est en Chine, nous restons en prière, c'est l'annonce principale. Nous restons en prière, nous restons en intercession, continuons de prier pour lui, continuons de prier pour sa famille aussi. Voilà, que le Saint-Esprit continue de les apaiser, qu'il continue de effectivement les remplir d'espérance. Voilà. Donc, alors, frère André, tu aimerais faire la prière de clôture? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en particulier? Bon, je crois que... D'accord. Alors, on va rapidement faire notre prière de clôture. Je crois que le frère n'a plus grand-chose à ajouter. Alors, merci Seigneur pour ce temps où tu es venu te révéler à nous. Te révéler à nous, Seigneur, où tu es venu répondre à nos interrogations. Ben, Seigneur, parce que tu es venu encore nous enseigner. Tu veux nous enseigner, Seigneur, en faisant parler ton serviteur, en lui donnant d'éclairer justement les Écritures qui parfois, Seigneur, peuvent sembler difficiles. Lorsque nous n'avons pas forcément fait l'expérience claire de l'Esprit, il nous arrive parfois de nous retrouver seuls lorsque nous lisons et parce que nous sommes maladroits, parce que nous ne savons pas te laisser prendre la place. Donc aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné de t'expérimenter différemment, de te bénissons et de te glorifions. Seigneur, que les paroles qui ont été relâchées viennent rentrer dans nos cœurs. Seigneur, nous n'avons pas la prétention de penser que nous allons tout retenir. Mais nous savons, Seigneur, que comme le Saint-Esprit agit maintenant, comme le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit saura disposer nos cœurs. Le Saint-Esprit saura faire en sorte que la parole qui a été relâchée ne puisse pas retourner sans pourtant qu'elle puisse accomplir ce pour quoi elle a été relâcher. Donc, Seigneur, nous prions vraiment que tu puisses continuer, Seigneur, de semer en nous. Et nous déclarons maintenant le nom suprême de Jésus-Christ que nous recevons la semence qui a été semée aujourd'hui dans la bonne terre de notre cœur. Voilà. Donc, Seigneur, sois béni et sois glorifié. Nous te prions pour que tu puisses nous donner d'amener d'autres personnes à venir t'écouter. Nous te prions pour que tu nous donnes d'expérimenter justement de briser la barrière, la petite barrière, le petit mur de glace qui nous empêche parfois de partir vers l'autre et l'inviter, de partir vers l'autre et parler à cette personne de toi. Donc Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous déclarons sur notre vie la bénédiction ce soir, nous déclarons sur nos familles aussi la bénédiction, nous déclarons Seigneur que les anges manifestent un ministère extraordinaire d'intercession pour nos vies et pour la vie de nos proches. Merci Seigneur parce que tu as arrêté la pluie pour nous permettre de suivre cet enseignement. Mais Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter, nous pensons Seigneur que parce que nous sommes en prière ici, leur vie également, elle est bénie. Donc merci Seigneur, sois puissamment béni et que la gloire, la grandeur et les honneurs te reviennent, toi qui es à la fois le Père, à la fois le Fils et à la fois le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, bonne nuit à tout le monde et voilà, je vous souhaite à chacun de bien dormir et on se dit à la prochaine. Soyez bénis.